je vous propose une démarche nouvelle. C'est un nouveau terrain d'enquête pour moi, donc c'est un travail en cours. Ce travail en cours porte au départ sur quelque chose de minuscule, des lettres qui viennent de partout, du Canada, des États-Unis, de France, de Belgique, de Croatie, d'Italie, 62 lettres, mais vraiment de toute provenance. Le point commun de ces lettres, c'est donc de se retrouver dans les archives de la conservation du Père Lachaise et de faire référence à une histoire, celle du cercueil de verre du Père Lachaise. Alors, je raconte rapidement la trame essentielle, sachant que ensuite il y a de nombreuses variantes autour de cette histoire qui a été analysée dès la fin du 19e siècle et que les sociologues aussi ont analysé et ont qualifié de légende urbaine. L'histoire est la suivante. Il y a 5 ans, ça permet évidemment de faire dater l'histoire de n'importe quel moment. Il y a 5 ans, une princesse russe est morte et a légué toute sa fortune à celui ou celle qui garderait son cercueil de verre pendant 365 jours et 366 nuits dans sa chapelle au Père Lachaise. Alors, cette légende, en fait, si intéressant, c'est que elle circule principalement grâce à la presse, de manière vraiment internationale, vraiment mondialisée. Donc, il y a plein d'aspects qui m'intéressent avec cette affaire, mais ici, je vais me limiter au lien entre ces courriers, ces lettres reçues et la presse internationale. Sur ces 62 lettres, j'ai retrouvé, et donc j'ai pu retrouver photographier 20 articles qui étaient découpés, dans la presse et qui ont été joints au courrier. 17 de ces 20 articles étaient directement encore associés à leur courrier d'origine. 3 autres étaient des courriers flottants. 7 courriers mentionnent des articles joints, mais que je ne trouve pas dans les archives. Ce qui veut donc dire que 27 courriers sur les 62 conservés étaient associés au départ à un article de presse. Ça fait à peu près donc 43,5% de ce tout petit échantillonnage. Et puis, par ailleurs, en lisant ces courriers, 46 d'entre eux, donc cette fois-ci 74% de ces courriers, faisaient état de leur connaissance de cette histoire grâce aux journaux, grâce à la presse. Et donc, ce qui m'intéresse ici, ce que je vais sonder ici avec vous, c'est ce lien très fort entre la diffusion de cette histoire, de cette légende urbaine, et la presse de masse internationale. Alors, je vais essentiellement avec vous m'intéresser à 3 questions. La première question, c'est est-ce que on peut être sûr de l'origine médiatique de cette histoire? Est-ce que cette histoire est un canard, comme on l'a dit à l'époque dans la presse française? Est-ce que c'est un hoax, comme on le dit aussi dans la presse anglo-saxonne? C'est une hypothèse qu'on trouve dès l'origine et je vais y revenir. La deuxième question, c'est quel circuit a suivi cette histoire, à quel rythme et suivant quelle géographie cette histoire a-t-elle circulé, en m'appuyant à la fois sur les courriers, mais surtout, puisque c'est mon angle d'attaque aujourd'hui, à travers l'étude des journaux et de la presse. Et puis, la troisième question que je vous propose de voir, d'examiner un peu ensemble, c'est pourquoi et comment on peut expliquer une diffusion aussi large et aussi longue dans le temps de cette histoire, puisque on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est une histoire qui court toujours. Lorsqu'on visite le cimetière du Père Lachaise, il y a régulièrement des visiteurs et des groupes qui s'arrêtent et il y a certains tombeaux, en particulier un tombeau dont on estime que ce serait celui de la légende. Donc on peut même pas dire que ce soit une affaire close. Il y a des variantes qui circulent toujours, sauf que il est plus question aujourd'hui de cercueil de verre, La mutation a fait que désormais cette princesse russe est devenue une princesse vampire. D'abord l'origine médiatique de cette histoire. On trouve cette hypothèse sous la plume de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Ortoli et qui publie assez régulièrement dans un journal qui s'appelle La Tradition et qui à la fin du 19e siècle est à l'origine d'études folkloriques, mais non seulement de folklore ancien, du folklore passé, mais aussi d'un nouveau folklore et de mythes modernes qui naîtraient donc à l'époque, à la fin du 19e siècle. On se souvient peut-être qu'en 1889-1890, une légende commençait à courir dans la presse, d'après laquelle une princesse russe aurait laissé un legs de 100 000 à 1 million de francs à la personne qui consentirait à passer un an et un jour dans la chapelle élevée sur sa tombe au Père Lachaise. La morte était exposée, disait-on, dans un cercueil de verre, et pour celui ou celle qui entreprendrait auprès d'elle cette longue veillée ne pût jamais la perdre de vue, les murs de la chapelle étaient revêtus de miroirs. L'exigeante légatrice n'autorisait point son compagnon ou sa compagne à travailler, mais seulement à lire, et pour que sa pensée fût toute à elle, elle le condamnait à ne voir personne, ni ami, pas même le domestique qui devait apporter chaque jour les repas à un certain endroit. Enfin, elle ne laissait son futur légataire lui échapper qu'une heure par jour pour respirer un peu d'air et prendre quelques ébats dans le cimetière. Ici, le point de départ, ce serait donc une légende qui commence à courir dans la presse, 1889-1890, et cette première thèse, on la retrouve sous une autre plume, celle du journaliste Adolphe Brisson, dans le journal Le Temps, dans un article qui paraît en 1896, donc peu de temps après les premiers articles que j'ai retrouvés, moi les plus anciens datent de 1893, ceux que j'ai retrouvés dans les archives de la conservation du Père Lachaise. Et donc, voilà, selon lui, la légende de la princesse russe, et je donne ici l'extrait, naquit, voilà quelques années, à la troisième page d'un journal boulevardier, c'est moi qui souligne ici, on y racontait, en termes mystérieux, dans le style amphigourique des romans feuilletons, qu'une grande dame moscovite, immensément riche, s'était faite enterrer au Père Lachaise. On décrivait son monument, une colonne surmontée d'un dôme polychrome, et sa chapelle dallée de marbre précieux, et son cercueil en cristal de roche. Cette fable renouvelée de Scheherazade fut reproduite un peu partout, en France, en Europe, en Amérique. Eh bien, le croirez-vous, monsieur le conservateur a reçu des milliers de lettres lui demandant des renseignements sur la féerique princesse et s'inquiétant des conditions à remplir pour devenir son héritière. Et l'on continue à lui écrire, en 1896. Ce qui est vrai, puisque moi j'ai pas retrouvé des milliers de lettres, mais 62 lettres qui s'étalent de 1893 à 1937. Donc c'est une dans ce petit échantillonnage, c'est une légende au long cours. Alors le point commun de ces deux contemporains, c'est de faire de cette histoire un canard, c'est-à-dire donc une fausse information montée de toutes pièces par les journaux de l'époque. Et pourtant, ni Adolphe Brisson, ni Frédéric Ortoli, ni le conservateur du Père Lachaise que Adolphe Brisson a interviewé, ne mentionnent à aucun moment un exemple de titre de journaux ayant relayé cette légende en France ou ailleurs. La seule piste concerne donc l'hypothèse de journaux boulevardiers entre 1889 et 1895. Et par journaux boulevardiers, on peut sans doute sous-entendre la presse populaire de grande diffusion, cette presse à cinq sous, devient très importante à la fin du 19e siècle. Je rappelle que à cette époque, les contemporains parlent d'un âge de papier, une expression qui est empruntée à l'illustrateur Félix Vallotton, qui en faisait le titre d'un dessin qui était paru en 1898 dans un contexte évidemment très particulier, hein, celui de l'affaire Dreyfus. Et évidemment, cette formule renvoie à la quantité extraordinaire d'exemplaires de journaux vendus à la fin du 19e siècle. Selon les enquêtes les plus récentes sur ce sujet, notamment celle menée entre autres par Dominique Khalifa, On sait qu'effectivement, il y a des millions d'exemplaires et des tonnes de papiers qui se vendent tous les jours. 24 millions d'exemplaires par jour aux États-Unis, 10 millions d'exemplaires par jour en France. Donc, pour qualifier cet âge très particulier, il a utilisé avec d'autres l'expression de civilisation du journal, qui emporte donc toutes les activités sur un rythme périodique et qui, évidemment, implique un certain nombre de contraintes. On est aussi à un moment où la presse est en grande concurrence, mène des campagnes de réclame très agressives, et tous les coups sont permis, ou presque, pour les grands patrons de presse de cette époque. Et puis par ailleurs, on est dans un contexte aussi où le journalisme n'est pas encore une profession avec des règles clairement établies, une déontologie, des écoles de journalisme, une formation particulière. Ce sont souvent des gens de lettres passent par le journalisme et qui testent éventuellement un certain nombre de recettes littéraires à cette époque. Donc je me suis dit que j'allais essayer de retrouver l'origine de cette légende dans la presse en France. Première difficulté, elle vient du fait que dans le corpus, aucune lettre française n'accompagne sa demande d'un article de journal. Et par ailleurs, ceux qui écrivent en France pour candidater ne font pas référence à une connaissance par la presse de cette rumeur. Je m'appuie essentiellement sur ce que disent Frédéric Ortoli et Adolphe Brisson pour imaginer qu'il y a bien eu des articles parus dans la presse française. Alors, j'ai utilisé les outils à disposition, et notamment toutes les campagnes de numérisation de la presse qui permettent parfois de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Et malheureusement, ni sur Gallica, ni sur les articles publiés sur la plateforme Média 19, je n'ai pu retrouver de journal qui relayait cette rumeur en entrant un certain nombre de mots-clés, hein, cercueil de verre, princesse russe, Père Lachaise, tout ça, voilà, ça ne m'a pas permis de trouver la moindre trace d'un journal français à l'origine de cette rumeur. Pourtant, j'ai des lettres dont la plus ancienne date du 17 novembre 1894, qui, elle, n'a pas visiblement entendu parler d'une princesse russe, mais d'une comtesse, la comtesse de Beaujour. C'est vrai que le monument des Beaujours est très particulier au cimetière du Père-Lachaise. Et donc, elle dit qu'elle croit savoir que le tombeau à garder est celui de la comtesse de Beaujour, et elle croit avoir entendu parler d'un testament. Voilà. Donc on est dans le oui-dire, dans la rumeur, là pour le coup, vraiment, mais sans avoir d'indice supplémentaire. Un autre courrier, cette fois-ci en provenance de Belgique, Jules Prignon, un ouvrier ardoisier de 31 ans, envoie une lettre également en 1894, et lui explique avoir entendu de la bouche de Monsieur Gaspard, curé à Longlier, que la place de gardien de Madame la Comtesse était libre. Donc là, c'est pareil, ça passe par un tiers, mais c'est pas une connaissance par la presse. Ça vaut également pour tous les autres courriers. Alors, il y a des courriers postérieurs à 1894, il y en a un de Jean-Paul Van Miegem, qui habite à Paris dans le 20e arrondissement, donc très proche du cimetière du Père-Lachaise. Je le cite, « J'ai ouï dire par une personne que je puis croire. » Et ensuite, il rédige une lettre très lacunaire. En fait, il laisse un certain nombre de trous à combler par l'administration, parce que c'est une lettre qui demande autant de renseignements qu'autre chose. Voilà, pour garder une personne morte, une somme de 3 petits points X point d'interrogation. Voilà, il ne sait pas exactement quelle est la somme offerte. On a un doute sur le fait que la légende ait circulé en France par la voie de presse, même si c'est encore possible. Pour le moment, j'ai pas trouvé de journal à l'origine de cela. Alors cependant, des récits dans la presse qui tournent autour d'un dernier vœu excentrique avant de mourir sont assez courants dans la presse du 19e siècle. Je vous en donne quelques exemples. Voilà, ici dans le journal Le Voleur Illustré, un premier extrait de 1873, donc sous la forme d'une anecdote assez typique de ce journalisme assez littéraire de la fin du siècle. Une vieille dame, la marquise de C. de R., décédée il y a un mois et dont le testament ouvert ces jours derniers par devant notaire, comprend un legs des plus bizarres. Elle laisse en effet 100 000 francs à son vieux professeur de musique à condition que chaque semaine, les jours où elle recevait, il donne avec l'aide de 3 autres exécutants une séance de musique de chambre dans son caveau du Père Lachaise. Les héritiers arguent d'après l'opinion nationale de ce dilettantisme posthume afin de faire annuler cette clause excentrique pour cause d'aliénation mentale. C'est une question à vider entre croque-mort et croque-note. Parce qu'évidemment, l'idée c'est encore une fois qu'on est plutôt dans le canard. On est dans cette espèce d'interstice entre l'invention purement littéraire et le potentiellement vraisemblable. Un autre exemple, dans le même journal, qui récidive en publiant donc l'entrefilet suivant, là, 1892, on est donc juste un an avant les premières lettres, hein. La caisse des écoles du 3e arrondissement vient de faire un héritage original, une madame Dubray lui lègue une somme de 9500 francs à charge d'entretenir des fleurs sur sa tombe et de nourrir son chat, nommé Bif. Elle a fixé dans son testament le régime que doit suivre le matou, 3 repas par jour, mou, foie et cœur. Qui veut loger Bif, le chat rentier ? Et on voit bien que ce genre d'anecdote se termine toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire un appel au bon cœur presque, hein, qui marche dans le cas de la légende du cercueil de verre, puisqu'il y a des gens qui, évidemment, candidatent et écrivent. Alors, on peut aussi trouver ce même type d'histoire dès la première moitié du 19e siècle. J'en ai trouvé une dans Le Voleur, en 1833. Je vous la cite. Là, c'est aussi intéressant, on préfère l'excentrique, c'est toujours l'étranger. Donc là, en l'occurrence, c'est un Anglais. Un étranger ou bien alors un aristocrate au 19e. Donc un des hommes les plus remarquables par sa singularité dans un pays où les hommes singuliers ne manquent pas, le major Hooke, est mort récemment en Angleterre à Hackcomen. Il avait 75 ans. Le château qu'il habitait se faisait remarquer par une apparence sombre et négligée, mais l'intérieur était encore plus triste que le dehors. Un de ses parents par alliance lui avait légué un revenu assez considérable qui devait durer tant que sa femme demeurerait sur terre. Pour ne pas perdre le bénéfice de ce testament, après que sa précieuse moitié fut morte, le major la fit placer dans une chambre où le corps de la défunte, convenablement embaumé, fut enfermé dans un cercueil de cristal, au fond duquel il avait fait placer une légère couche de terre. Et dans cet appareil, il la conserva pendant 30 années. Ce tendre époux lui rendait de fréquentes visites, et sans doute par jalousie, il ne souffrait jamais que personne, que lui, ne pénétrât dans ce sanctuaire conjugal. Donc on retrouve cette idée du cercueil de cristal, toujours en lien avec une histoire de testament. On peut aussi comprendre les allusions du conservateur du Père Lachaise au roman feuilleton, parce qu'effectivement, un certain nombre de romans feuilletons des années 1880 prennent pour scène principal le Père Lachaise, et par exemple il y a un roman feuilleton de 1882 qui s'appelle Le Crime de l'Opéra, signé Fortuné de Beaugobet, un auteur assez prolifique de romans feuilletons à la fin du 19e siècle, où il est question de l'enterrement au Père Lachaise d'une actrice assassinée dont la concession et l'enterrement ont été payés dans le plus grand secret par un grand seigneur russe. Un certain nombre d'ingrédients qu'on retrouve dans le récit de la légende. quand même pas de presse française trouvée, mais en revanche, la circulation dans la presse est attestée. Et donc, je m'intéresse maintenant, ça va être le deuxième point que je vous propose d'aborder ensemble, au circuit de diffusion médiatique de la légende, ce que j'ai véritablement réussi à restituer. Alors, je vais partir d'abord des titres de journaux que j'ai pu reconstituer à partir des indices figurant dans les courriers et à partir aussi des petits entrefilets qui se trouvaient glissés dans les courriers. Donc on a des journaux majoritairement anglo-saxons. Hein, le titre le plus ancien, c'est un journal belge, l'Étoile belge. Ensuite, un journal en langue allemande, le journal quotidien d'Agram, et puis ensuite évidemment États-Unis, Chicago, et puis ensuite du Canada. Les difficultés premières et majeures, c'est que ces journaux dont j'ai les coupures, je ne réussis pas à les retrouver dans leur intégralité car beaucoup n'ont pas été numérisés, ne sont pas dans les programmes de numérisation. Et pour le moment, par exemple, je n'ai pas encore réussi à consulter les archives de l'Étoile belge. Il y a eu un travail récent de Pierre van den Dungen sur les journaux belges au XIXe siècle. Il explique que ces journaux sont très influencés par la presse française. Et l'Étoile belge, dont il est ici question, c'est le plus gros tirage de la presse belge de l'époque. C'est un journal qui, après 1870, tire entre 30 000 et 33 000 exemplaires. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est un journal qui a été créé au départ avec un apport financier important de la France, en l'occurrence du duc d'Aumale. Donc c'est au départ un journal libéral d'inspiration orléaniste. Et puis après la chute du Second Empire, progressivement donc la dimension politique s'efface un peu, mais le journal reste sous la direction d'un entrepreneur de presse français. Pierre van den Dungen explique que l'Étoile belge et les journaux belges de manière plus large, en particulier les journaux belges francophones, restent très fortement influencés par Paris. Dit-il, est le centre névralgique de réception et de rediffusion de nouvelles. Et il explique que à ce moment-là, la presse périodique française occupe la deuxième place au niveau international derrière la presse américaine. Donc voilà, ça fait partie des éléments des éléments qui m'intéressent. Alors, la coupure qui revient la plus fréquemment dans les courriers, elle vient de journaux de Chicago et en particulier du Herald Tribune et de son complément du week-end, le Sunday Herald Tribune, de manière très suggestive, dans un article paru le 22 avril 1894 dans un journal qui s'appelle le Boston Herald. Un journaliste qui a longtemps été correspondant américain en France, à Paris, Henry Haney, fait un article qui s'appelle « The Victims of a Paris Hoax ». Donc les victimes d'un canard parisien. Et il explique que la rumeur aux États-Unis aurait été lancée par un article paru dans un journal de Chicago. La presse de Chicago pourrait bien être à l'origine de cette rumeur. Cette rumeur se serait diffusée, toujours d'après l'article de Henry Haney, grâce à un cablegram, et que ce cablegram, ce spécial, serait en provenance de Paris. Donc, on aurait ici une légende qui aurait circulé principalement entre Paris et Chicago. Et ajoute-t-il, je l'ai découvert assez récemment, donc j'ai pas pu enquêter plus avant, mais il explique que ça aurait nécessité un certain nombre de discussions entre l'ambassadeur des États-Unis, James Biddle Eustis, et le préfet de police de l'époque, Louis Lépine. Parce que ça provoque une panique, les gens écrivant à l'ambassade des États-Unis pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc, pour essayer de vider cette affaire, tirer cette affaire au clair en tout cas. Chicago, en 1893, accueille une grande exposition universelle. C'est en plein développement démographique et industriel, ce qui s'accompagne de graves tensions sociales et d'une forte paupérisation d'une partie de la population. Donc ici, on a une presse de Chicago qui visiblement prend de l'importance et qui utilise ces dépêches télégraphiques transatlantiques pour diffuser largement. Cette piste est intéressante, mais pour le moment, ça reste une piste. Hein, je vous la mentionne simplement. Les journaux qui sont mentionnés dans les courriers n'ont été que très rarement numérisés pour le moment par les bases de données disponibles. Ce sont des bases de données principalement gratuites et donc j'ai essentiellement consulté les journaux américains, mais aussi les journaux australiens, néo-zélandais. Pour essayer donc de repérer cette légende et la circulation de cette légende. Alors pour repérer des articles, j'ai tout simplement questionné ces bases à partir de certains mots-clés. Ces mots-clés, c'est « princesse russe », donc « Russian princess »,« testament d'un million »,« will one million » et « cercueil de verre »,« crystal coffin ». Avec évidemment la conjugaison Père Lachaise pour voir ce que je pouvais trouver. Et donc j'ai trouvé en fait de très nombreux articles, vraiment très nombreux articles relayant cette légende de la princesse russe dans différentes régions du monde à des dates là aussi diverses. Alors pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, je vous propose ici de suivre plusieurs variantes parmi celles que j'ai trouvées les plus facilement identifiables pour le moment. En fait, c'est assez simple. Ce que j'ai repéré, c'est que un article était repris à la virgule près de manière un peu virale sur enfin, dans différents journaux, différentes villes, à des dates parfois très éloignées les unes des autres. Alors j'essaie de repérer les articles qui avaient quelques caractéristiques significatives. Donc je vous propose une première circulation autour d'un article qui s'appuie toujours sur l'idée que la nouvelle proviendrait d'un mystérieux correspondant à Paris pour le journal Le Standard. Ce journal pourrait être The London Standard, puisque c'est en effet le premier qui fait paraître un article appelé à connaître un grand succès dans son édition du 25 décembre. 25 décembre, donc le jour de Noël 1893. Cet article dont le titre est récupéré ainsi que tout le contenu de l'article tel quel. Cet article s'appelait An Extraordinary Hoax, donc un extraordinaire canular. Et donc on retrouve exactement les ingrédients principaux. Hein. C'est la princesse russe qui lègue une fortune estimée à 1 million de francs à celui qui gardera son cercueil de verre pendant un an. Alors cet article est repris donc mot pour mot les jours suivants, entre le 26 et le 28 décembre 1893, donc pour les fêtes de Noël, et on va donc le trouver dans le Gloucester Citizen le 26, le Edinburgh Evening News le 26, le Glasgow Herald, le Sunderland Daily Echo and Chipping Gazette, le Daily Gazette for Middlesbrough, sous ce titre-là. On a une légère variante, c'est-à-dire qu'on change essentiellement le titre. Ça s'appelle Sensational French Hoax. C'est dans le Western Mail du 26 décembre. Et puis, pour Aberdeen et le Sheffield Daily Telegraph, une légère variante du titre aussi, ça s'appelle The Strange Story of a Russian Princess. Et donc ici, j'ai essayé d'utiliser donc les outils pour le moment de Google Maps. Ça me permettait de repérer facilement, sans prendre trop de temps, les localisations des différents journaux. On voit à peu près comment ça circule, hein. C'est l'information part de Londres, se diffuse dans le sud-ouest du pays le lendemain, avant de migrer vers le nord-est le surlendemain. Et puis en Écosse, on a trois grandes villes qui publient la fausse nouvelle sous des titres un peu différents le même jour, avec un décalage d'une journée par rapport à Londres. Cet article-là est repris tel quel, même titre, même mot, etc. Exactement de la même manière, donc dans l'espace colonial et principalement en Australie. Donc ici, ça, ce qui jouerait à plein, c'est la pratique du reprint, c'est-à-dire le fait de pas, on n'a pas forcément suffisamment de matière, donc on reprend la matière fabriquée ailleurs, ici donc à Londres. Je le trouve le 10 février 1894, donc avec un peu plus d'un mois, 10 jours de décalage, dans le South Australian Chronicle, et puis aussi en Tasmanie, dans le journal The Mercury, avec évidemment un effet de décalage assez étonnant. Pourquoi ça se diffuse? Pourquoi cet article-là? Pourquoi ça fonctionne? Il y a un certain nombre de questions qui sont tout de même assez étonnantes. On va retrouver la référence au correspondant à Paris du Standard dans les journaux australiens et néo-zélandais. Et puis, on va retrouver les variantes que j'avais observées en Angleterre, c'est-à-dire des articles intitulés « Strange Story of a Russian Princess ». Ça circule plutôt au début du mois de mars 1894. Et puis ce type de d'article vraiment prédécoupé, complètement formaté, je vais le retrouver tel quel jusqu'au 2 mai 1896. Donc c'est des produits qui ont une vie longue. Je trouve une autre variante tout à fait étonnante que je n'avais pas trouvée dans mon corpus de lettres initiales. Mais cette fois-ci, la mystérieuse princesse russe devient la comtesse Ostrogilski. Cette comtesse Ostrogilski n'existant pas plus que la première, et qui, elle, laisse un testament de 1 300 $ à celui ou à celle qui gardera sa tombe, son cercueil de verre, pendant un an. On retrouve les mêmes ingrédients, il n'y a que le nom qui change. Et donc l'article le plus ancien de cette version, avec donc la comtesse Ostrogilski, remonte au 8 février 1914 dans le Chicago Tribune. Donc on retrouve un départ à Chicago. J'ai essayé de suivre la diffusion de ce type, de cette variante de la comtesse Ostrogilski, et donc le titre de l'article est toujours le même. Ça s'appelle Result of a Weird Will, le résultat d'un curieux, d'un bizarre testament, et il va être repris principalement aux États-Unis et en Australie en 1914, essentiellement 1914. Je le retrouve un peu au printemps 1915, et puis dans les années 1920 en Australie, et jusqu'en 1932 au moins. Et là aussi, c'est assez étonnant. Pourquoi ça dure aussi longtemps? Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi longtemps? C'est quand même assez curieux. Alors, ça se répand dans des États aux États-Unis qui sont pas des États extrêmement urbains. On l'a dans le Sledgehammer de Oklahoma, dans le Kansas, dans le Barbour County Index. Cette variante-là, à ma connaissance, n'a circulé que dans le monde anglo-saxon extra-européen et n'a pas vraiment pris en Europe. Ce qu'on peut comprendre aussi, puisque très rapidement, on va quand même être plutôt sur les nouvelles de la guerre que sur ce type de légende. Alors j'en viens à ma troisième question, c'est pourquoi et comment peut-on expliquer une diffusion aussi large et aussi longue dans le temps de ce type de canular. Première hypothèse, bien sûr, c'est lié au contexte, c'est-à-dire entre 1890 et le début de la Seconde Guerre mondiale, on est dans une période très particulière du journalisme, un journalisme en plein développement, une presse de masse qui vit une époque très concurrentielle. Avec, comme je le disais, très peu de règles encore de déontologie, et tous les coups étant permis. Cette presse de masse, elle va se développer partout en Occident, avec des décalages d'un espace à l'autre. Alors ici, dans le cas du Canada, ce que j'ai vu pour le moment, c'est une presse qui émerge plus tardivement par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, des premiers imprimeurs qui font leur apparition dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des imprimeurs qui au départ sont presque tous américains. Au fur et à mesure de l'expansion vers l'ouest, les régions couvertes par la presse évidemment vont augmenter. Les journaux sont publiés, y compris dans les zones les plus reculées, de frontières. Et vont répondre dans un premier temps à des considérations à la fois commerciales et politiques. Ce qui change dans les années 1880, c'est que on a évidemment la construction du Canadian Pacific Railway, donc le réseau de chemin de fer vraiment s'étend et permet des parcours qui vont évidemment accélérer la diffusion des journaux. Et puis, à partir des années 1872-1900, le paysage médiatique canadien est vraiment transfiguré avec l'apparition d'une presse industrielle moderne qui va s'appuyer sur des agences de presse, et en particulier, tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle, les journaux canadiens sont obligés d'obtenir leurs informations britanniques et étrangères de l'agence américaine Associated Press, et donc dépendent des réseaux télégraphiques et des réseaux de chemin de fer. Comme il y a une logique concurrentielle très forte, les entrepreneurs de presse fondent en 1907 une autre agence de presse concurrente, la Western Associated Press, qui va obtenir une franchise du chemin de fer canadien, le Canadian Pacific, en 1910. Et donc, il me semble que c'est pas totalement anodin dans l'histoire, parce que la circulation de la légende de la princesse russe, elle est quand même très fortement présente à Chicago et dans les territoires canadiens proches de la frontière américaine. Donc c'est probablement pas totalement anodin. Aux États-Unis, le contexte est un peu différent, mais les décalages sont faibles. À partir des années 1880, les journaux américains entrent dans une nouvelle phase qu'on appelle le journalisme récréatif, c'est-à-dire une phase d'essor avec cette hypothèse forte, développée notamment par Pulitzer dans son titre de presse The World, que les lecteurs attendent plus qu'une dose quotidienne de faits. Ils veulent aussi des jeux, des puzzles, des défis. Et donc, ils vont développer donc ce journalisme récréatif avec ses cases horaires, hein, c'est les journaux du soir, les journaux du samedi, les journaux du dimanche, pardon. Et on va multiplier les canulars. Fait intéressant, c'est Chicago à cette époque est la principale ville des humoristes américains. Donc il y a beaucoup d'humoristes installés à Chicago et ils sont beaucoup employés par les grands patrons de presse de cette époque. Alors, faut pas imaginer à cette époque une presse américaine fortement concentrée, hein, les grands magnats de la presse encore très connus, Joseph Pulitzer, les William Randolph Hearst ou d'autres. Donc ces grands magnats de la presse ne contrôlent que à peu près 1,3% des titres qui se vendent vers 1900. mais se mettent en place toute une série de chaînes de journaux et se mettent aussi en place des poules pour en particulier dans les journaux des États du Midwest et du Far West, des poules pour recueillir des informations. Et donc c'est ces journaux qui vont beaucoup s'appuyer sur les agences de presse et sur la société de presse qu'on retrouve encore, la société de presse au Canada, la société de presse évidemment aussi aux États-Unis. La diffusion de la rumeur, elle est évidemment liée à la circulation de dépêches transatlantiques permis par les grands câbles transatlantiques. Hein. On voit assez bien que la diffusion n'est possible que parce qu'il existe les moyens de faire circuler les informations depuis Londres jusqu'en Nouvelle-Zélande et jusqu'en Australie. Et si on regarde les cartes des journaux et puis les cartes des câbles transatlantiques, on voit quand même qu'il y a une correspondance évidemment assez forte. Alors évidemment, ça nous donne pas exactement l'origine de la légende, mais on peut se dire que cette légende, elle ne peut exister que parce qu'il existe des câbles transatlantiques, des dépêches transatlantiques et puis des agences de presse pour diffuser ces câbles transatlantiques. Alors parmi ceux qui perturbent un peu le jeu, il y a de nouvelles agences de presse qui se créent. L'une de celles qui m'intéresse, c'est celle fondée par Davidson Dalziel. Il crée une agence de presse toute neuve à New York à l'automne 1890. Et cette agence, elle a un bureau à Londres. Elle obtient l'abonnement du Times de Londres et elle veut court-circuiter Reuters. Donc on est dans un contexte extrêmement concurrentiel entre les agences européennes de presse et les agences américaines, canadiennes et autres. Davidson Dalziel est d'origine britannique, mais il a passé sa jeunesse en Australie et aux États-Unis. En 1890, il est âgé de 40 ans et il pratique le nouveau journalisme à l'américaine, donc le nouveau journalisme récréatif. Donc ça permet de comprendre aussi qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs de presse qui croient dans ces canulars pour vendre en fait. Hein, donc c'est pas quelque chose qui paraît excentrique ou au contraire, on se dit que ça peut faire vendre des journaux et ça peut faire remporter un vif succès. À mon avis, même s'il n'est pas à l'origine de la légende directement, ce type de positionnement oblige tous les concurrents à se repositionner et en tout cas à se montrer plutôt ouverts à ces faits divers palpitants, ou voir ces canulars monter de toutes pièces. Une autre piste que j'explore, c'est aussi le rôle des correspondants de presse étrangère à Paris. On retrouve comme des petits cailloux ou pas, hein, ça peut aussi bien nous semer qu'autre chose, hein, mais cette piste du Standard à Paris, et puis le fait que l'article qui révèle que c'est un canular dès 1894 écrit par un ancien correspondant à Paris, Henry Haney. Donc on pourrait aussi imaginer qu'à l'origine de cette légende, il n'y a pas fatalement un article de presse, une mystification française, mais un canular, pourquoi pas américain. Il n'y a pas de raison que finalement ce soit pas éventuellement un canular américain. Alors cela dit, la piste d'une mystification française, elle reste toujours possible et ça va me permettre de revenir aussi sur l'idée des mystifications dans les journaux qui ont analysé cette légende, les deux journalistes que je vous ai cités, Adolphe Brisson et Frédéric Ortoli, ils considèrent que derrière ce canular, il y aurait un le mystérieux. L-E-M-I-C-E, T-E-R-I-E-U-Y, c'est-à-dire un pseudonyme, le mystérieux. Alors ce pseudonyme, au départ, j'ai cru que c'était juste un calembour. Mais en fait, c'est un vrai pseudonyme, c'est un vrai nom de plume. À la fin du 19e siècle, celui qui se fait appeler le mystérieux s'appelle en fait Paul Masson. C'est un grand mystificateur de la fin du 19e siècle. qui va créer de toute pièce plusieurs canulars retentissants relayés par la presse, certains ayant été restitués par Colette dans son livre de souvenirs qui s'appelle « Mes apprentissages ». Il y a une biographie qui lui a été récemment consacrée, et effectivement cette biographie le resitue dans un mouvement beaucoup plus ample de mystification française. À cette époque, le mystérieux, donc Paul Masson, était considéré à la fois comme un grand artiste, un vrai moraliste et un observateur lucide de l'homme et de la société, une espèce de héros solitaire et discret. Il a été principalement actif entre 1888 et 1896. Donc il était effectivement en vie au moment où la nouvelle a commencé à circuler. Cela dit, rien ne prouve qu'il en soit à l'origine et rien ne le relie directement, à part ce soupçon. J'ajoute que dès qu'il y avait à cette époque une farce diffusée dans la presse, on parlait d'un coup de le mystérieux. À la fin du XIXe siècle, les Français considèrent que les mystifications font partie du génie français. Et Augustin Thierry disait « L'amour de la mystification est en France une manière de penchant national. Tous les trouveurs de calembredaine, inventeurs de gaudrioles, improvisateurs de sornettes et chercheurs de facéties s'attirent chez nous la plus indulgente popularité. » Pierre Larousse est à peine moins chauvin dans le grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Il écrit « Il y eut de tout temps des mystifications et des mystificateurs, surtout en France. » Effectivement, on aurait une tendance française à la mystification. Cela dit, de là à en faire une spécialité française, c'est aller un peu loin. Et en fait, il y a une rivalité internationale autour du canular, autour du hoax, pourrait tout aussi bien être considéré comme une spécialité anglo-saxonne. Et de ce point de vue-là, on retrouve dans la légende une assez forte rivalité internationale, une question d'orgueil international. Alors, reste la question de savoir pourquoi faire circuler cette légende, pourquoi la faire durer aussi longtemps. Mais plusieurs pistes, voilà. La première, c'est qu'il faut bien combler les trous dans les colonnes et que cet article permet de remplir les trous dans les colonnes des journaux. La deuxième hypothèse, c'est que les journalistes de cette époque restent encore fortement liés aux gens de lettres. Et que y a un vrai lien avec l'anecdote, avec la fable, avec le conte. Et puis on pourrait aussi se dire que ce canular permet aussi de tester la nouvelle puissance médiatique des journaux au moment où ils se constituent vraiment en quatrième pouvoir. Ce qui est assez frappant, c'est de voir l'intérêt que les journaux ont à souligner les embarras que cause cette histoire montée de toutes pièces par la presse, les embarras au niveau de la conservation du Père Lachaise. Il y a plein d'articles qui expliquent que le conservateur est complètement débordé par les lettres qu'il reçoit. La conservation du Père Lachaise a gardé toutes les lettres, les a fait traduire et a répondu lorsque les adresses étaient parfaitement lisibles. Donc ici, c'est une réponse, voilà, en réponse à votre lettre du 7 juin dernier qui m'a été transmise par la préfecture de police. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il n'y a aucune mention sur les registres du cimetière du Père Lachaise de l'inhumation de Ruth Curtis. Alors oui, ça c'est un dernier point intéressant. En 1937, ce n'est plus une princesse russe, mais une riche héritière américaine qui s'est fait enterrer dans un cercueil de verre. Ça change de nationalité, mais on garde le cercueil de verre et on garde la même somme d'argent. Donc la nationalité a changé. L'inhumation de Ruth Curtis, ni d'un mausolée qui aurait été muré sur ordre du préfet de police. Donc voilà, c'est une... Toute une série de légendes circulent autour, c'est-à-dire que progressivement ça grossit. Il y a des variantes et puis il y a des explications. Voilà. Donc voilà, ici c'est une réponse qui a été faite à un correspondant qui a envoyé une lettre en 1937 de Berlin. Voilà, donc il me semble qu'il y a chez les médias un plaisir à souligner les embarras que cause cette histoire, embarras au niveau de la conservation du Père Lachaise, embarras au niveau de la préfecture de police, embarras aussi signalé, si l'on doit en croire Henry Haney, embarras aussi entre l'ambassadeur des États-Unis en poste à Paris et le préfet de police. Voilà, donc je vous ai donné simplement un petit aperçu de ce que ça donne en essayant d'axer au maximum sur l'idée de circulation mondiale, mondialisée, internationale, de ce que les sociologues appellent une légende urbaine et qui effectivement a essentiellement circulé au départ de très grandes villes, Paris, Londres, Chicago, mais qui a aussi plus largement essaimé. Je vous remercie de votre attention.